voilà. Donc je disais, on va revenir donc, vers l'entreprise traditionnelle, on va revenir donc, vers les implications sensibles, on va revenir vers des choses où on n'a pas forcément là non plus, tout, malgré le passé, malgré l'histoire, tout ce que l'on pourrait désirer pour construire des solutions qui seraient les plus robustes possibles. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même maintenant des produits qui commencent à apparaître, des choses qui existent, qui commencent à pouvoir être utilisées de façon un petit peu plus sûre que ce qu'on pouvait disposer avant. Donc rapidement quand même un petit peu de cela, simplement parce que la sécurité est bien toujours une affaire de contexte, autour, on fait de la sécurité juste pour le plaisir, on en fait parce qu'on a besoin, ça coûte cher, donc il faut quand même avoir des choses derrière à protéger. Donc le commissariat à l'énergie atomique, comme vous en doutez, a des choses à protéger. Il a une informatique relativement conséquente. On a en gros 18 000 postes de travail bureautique, le tout réparti sur une dizaine de sites dans toute la France. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a des communications réseau, ça veut dire que bien évidemment, malgré tous les efforts de standardisation du poste de travail qu'on pourrait souhaiter, ben, c'est pas aussi évident que ça. Le reste de notre part, au-delà de la bureautique, ben, c'est des gros calculateurs scientifiques, c'est des calculateurs départementaux, c'est des clusters très hétérogènes. Système d'exploitation des plus variés, justement sur tendance à dire que le regretté SICOM trouvera largement sa place au CEA, vu la diversité de notre part. Bien évidemment, on a de nombreux métiers, hein, de la ressource mobilière aux métiers de recherche, de nombreuses applications, et on a de nombreux prestataires qui interviennent sous des formes variées, et aussi donc une particularité. Notre administrateur général considère qu'on est payé pour faire de la science et pas vraiment de l'informatique, sauf si celle-ci constitue la science. Et donc, tout ce qui est, on va dire, les tâches classiques, standards d'administration, tout ça est infogéré. Donc, ça nous donne une obligation un petit peu de protection aussi vis-à-vis de nos urgences. Pas qu'on n'a pas vraiment confiance, mais enfin, bon, quand même. Petite méfiance. Donc, rapidement, l'organisation, c'est simplement surtout pour vous parler de nos métiers. Bon, comme toutes les grosses entreprises, hein, on a toute une partie de direction fonctionnelle, direction de la communication, des finances, ce genre de choses. Bien évidemment, une direction de l'informatique et en ce qui nous concerne, une direction aussi de la sécurité, qui est compétente en matière de politique de sécurité informatique notamment. En dessous de tout ça, on a quatre grands pôles qui regroupent l'ensemble des métiers du CEA. Donc un pôle défense, c'est, je dirais, quelque part l'origine de la maison. On n'ira pas plus loin, leurs contraintes de sécurité sont fortes, mais réglées relativement simplement, en sens qu'ils ne sont pas connectés au monde extérieur. Donc globalement, même si c'est difficile à mettre en place, c'est quand même quelque part un petit peu moins risqué pour les autres. Le nucléaire, par contre, évidemment, ils ont un problème, ces gens-là ont un problème, je dirais, réglementaire important, qui fait qu'effectivement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, ceci explique bien cela. Alors le pôle nucléaire, c'est tout ce qui concerne l'énergie. Bien évidemment, le CEA est, je dirais, la référence de recherche pour tout ce qui est énergie nucléaire, de l'extraction du combustible jusqu'à l'enfouissement des déchets, en passant par la production d'énergie au milieu. Donc tout ce pôle nucléaire s'occupe de l'ensemble de ces métiers. Bien évidemment, il commence là à y avoir des informations assez sensibles qui peuvent passer sur nos réseaux, ne serait-ce que parce que, eh bien, il y a des matières nucléaires en civique qui traînent à droite et à gauche, et bon, ben, ce n'était pas la peine de le dire à tout le monde, tout simplement. Un pôle dit de recherche technologique, donc dans ce rôle, en fait, pour faire du nucléaire ou pour faire les métiers de la défense, on est amené à développer des compétences sur des tas de choses, notamment sur les matériaux, l'électronique, des choses comme ça, et là aussi, ça a intéressé des gens parce que ça peut être utilisé dans d'autres activités, et là, nous avons de gros contrats industriels avec des gens qui ont intérêt aux résultats de recherche, et là aussi, c'est du patrimoine industriel et ça se protège parce qu'on n'aurait pas laissé les brevets, on n'aurait pas laissé toutes ces choses-là partir trop facilement à l'extérieur sans les valoriser. Je rappelle que ce que nous dépensons comme argent, c'est nos impôts, donc on a quand même intérêt à se limiter et à valoriser nos recherches. Et puis, ben, tout à l'extrémité, on a un pôle dit recherche. Donc là, c'est la recherche de la recherche. C'est tout ce qui se fait très longtemps à l'avance. Et là, nous trouvons, par exemple, tout ce qui est... on va dire, physiciens qui font de la physique très avancée, on a aussi pas mal de gens qui travaillent sur les sciences du vivant, pas mal de gens qui travaillent sur tout un tas de choses diverses et variées, qui eux par contre, je dirais, comme pour tous les chercheurs, je dirais par exemple aux collègues du CNRS, ont une envie de liberté totale et ne comprennent pas forcément les contraintes sécuritaires qu'on pourrait leur imposer. Donc ça vous donne un petit peu une idée du contexte de la maison. Et nous allons revenir maintenant donc, sur les applicatifs sensibles. Alors, applicatifs sensibles, c'est applicatifs qui vont traiter des données sur lesquelles nos objectifs de sécurité ont des objectifs forts en matière de confidentialité. On ne souhaite pas que les informations qui sont traitées traînent à droite et à gauche. Alors, pour les raisons que j'ai évoquées, soit des raisons réglementaires, parce que bien sûr, simplement, on ne peut pas. Soit pour des raisons de protection du patrimoine, on souhaite pas, là on souhaite le valoriser, donc pour le protéger, pour le valoriser. Et voilà pour la confidentialité, bien évidemment des contraintes d'intégrité, on ne souhaite pas que des résultats de recherche soient faussés, ça pourrait quand même entraîner quelques conséquences néfastes. Par contre, nous sommes en général moins exigeants en ce qui concerne la disponibilité, si les systèmes sont arrêtés une journée, ce n'est pas forcément dramatique. Bon, si ça arrivait la veille de la veille, c'est sûr qu'il y a des gens qui rabattent un petit peu. À part ça, on n'a pas vraiment de choses dont la disponibilité médiocre soit forcément plus sensible. Quand elles sont, c'est très connu et très limité. Alors, une chose que nous souhaitons, bien sûr, c'est que toutes les actions qui sont faites sur le système sont imputables. C'est accessible, bien évidemment, des logs, des choses comme ça. C'est une vraie contrainte. C'est une vraie contrainte parce que ça stresse, ça se génère déjà dans les conditions propres et ça doit se traiter. Notamment dans le cas des applicatifs sensibles, eh bien, il est absolument nécessaire que l'on puisse, si jamais un jour on vous dit, ben oui, mais il y a cette information qui a filtré à l'extérieur, eh bien, on soit capable de retrouver, quelques semaines, quelques mois après, l'origine de la fuite. Alors, quelles sont nos menaces? Eh bien, en fait, nos menaces sont principalement internes. Nos réseaux sont bien évidemment connectés à Internet, via Renater, et nous avons là des barrières, des feuilles rouges, qui permettent de filtrer vers l'extérieur choses, et donc nous considérons comme nous sommes chez nous, enfin tout au moins dans le cadre des applicatifs sensibles, eh bien les menaces internet sont, je ne vais pas dire finies, mais elles sont, on va dire, extrêmement limitées par les mesures de protection que prennent nos collègues qui gèrent notre réseau. Alors principalement interne, elles viennent de deux directions, d'une part les utilisateurs eux-mêmes de ces applicatifs, après tout on a beau filtrer les gens, on a beau essayer d'avoir les gens les plus de confiance que nous pouvons, eh bien il pourrait y en avoir qui seraient tentés de faire comprendre quelques résultats et de transférer une personne mal intentionnée à l'extérieur. Donc on cherche à se protéger un petit peu aussi de nos propres utilisateurs, disons tout au moins de leur éviter la tentation au maximum. Alors d'autres collaborateurs, eh bien, notre maison vit 8000 personnes, hein, il y a des tas de gens qui passent toute la journée, on ne connaît pas tout le monde, les prises réseau sont comme partout dans les bureaux. Si quelqu'un veut une machine, un sniffer, ben, on n'a pas trop envie qu'il puisse récupérer des choses. Donc pourtant, ce serait largement possible. On a aussi des gens qui sont installés pour des périodes un petit peu plus longues, par exemple des stagiaires, hein, j'ai confiance dans les stagiaires là aussi, mais malgré tout, eh bien, vous pouvez avoir des stagiaires qui ne sont pas aussi de confiance qu'on pourrait le souhaiter et dont une des tâches non dites de leur stage pourrait être effectivement de sortir de l'information à l'extérieur du cela. Donc on cherche à se protéger de ça et donc à éviter qu'ils puissent récupérer sur les réseaux un certain nombre de choses qui transitent. Alors on a un certain nombre de contraintes de développement, bien sûr, pour tous ces applicatifs-là. Il y a d'une part notre réglementation interne qui est basée sur la réglementation, bien évidemment, nationale qui existe à l'extérieur, qui aujourd'hui dit principalement deux choses. Il faut protéger physiquement les informations. En gros, c'est je prends une feuille de papier, j'ai pris ce qui est sensible, et puis je le cache dans un coffre-fort. Alors au niveau informatique, c'est un petit peu plus difficile, mais enfin, on y arrive. Et puis, pour construire ces applicatifs, on passe sur un catalogue de produits qui ont été évalués, regardés, testés, et qui, a priori, servent de briques pour pouvoir construire les systèmes dont nous avons besoin. Alors, une prise en compte de notre existence, bien sûr. Je vous ai dit, on est là pour gérer. Nos utilisateurs, a priori, sont tous les scientifiques. Ils n'ont pas d'informatique à faire en tant que tel. Donc, on est basé sur un système de client-serveur. Les serveurs sont gérés par des spécialistes. Et le client, il a son objectif. Ça, il est utilisateur de base de sa machine. Un référentiel de développement, aujourd'hui on utilise principalement du client Citrix avec derrière tout ce qui va bien, et donc un référentiel de développement qui est le mot pour le moment, qui permet de savoir comment on doit développer une application standard au CEA, donc ça définit tout un tas de choses, par exemple l'authentification des utilisateurs, et ainsi de suite. À terme, hein, on va remplacer ça par un navigateur standard et donc passer en J2E. Bon, je ne vous parlerai pas des serveurs ici, ce n'est pas l'objet, c'est le poste de travail, donc on laisse les serveurs de côté. On considère qu'ils sont mis en œuvre par des gens de la hostile, de confiance, à nouveau hostile, et largement protégé, comme il convient, parce que moi, c'est refaire des vrais partenariats. Et les liaisons entre nos clients et nos clients se font par le réseau SCOA. Le SCOA dispose d'un réseau plusieurs pour l'ensemble de ces centres, avec simplement un besoin d'accès vers l'extérieur. Donc nous avons un réseau à nous, il circule tout dessus. Donc tout circulant, eh bien, on sont un petit peu précautionneux pour un certain nombre de choses, justement, pour éviter que ce soit possible à quelqu'un qui se poserait comme ça dans nos locaux. Donc un petit rappel sur la protection physique. C'est basé sur le contrôle d'accès, c'est-à-dire sur les murs, sur les toitures, donc notre réglementation interne dit que les informations sont beaucoup plus sensibles. Eh bien, on doit avoir trois barrières de protection. Donc, en général, ces barrières sont constituées par la clôture de l'établissement. Hein, ici, on est arrivé à son PLF. Tout à l'heure, j'ai pris taxi et puis j'ai quand même passé un portail. Bon, il n'y avait pas de gardien. Chez nous, il y a des gardiens et on ne passe pas comme ça. Il y a des bâtiments, vous avez des bâtiments, il y a des portes, il y a des badges, il y a tout un tas de choses. Voilà, pour pouvoir rentrer dans le bâtiment, ce qui veut dire qu'on a été agréé pour pouvoir rentrer dans le bâtiment, on vous a donné un droit d'accès. Et même éventuellement, à l'intérieur de ce bâtiment, vous avez un droit d'accès pour un bureau, pour une installation, pour une pièce spécifique. Et donc, vous pouvez accéder à l'information et donc à l'information stockée dans le PC. Donc, on rappelle que toute l'origine de cette réglementation, c'était le papier, et donc aujourd'hui, elle est encore très empreinte de son passé papier. Et puis, bah, comme je vous le disais, on est dans un contexte de client-serveur, donc on a le client qui est dans un bâtiment, dans un centre, on peut très bien avoir le serveur qui est arrivé de la France, dans un autre bâtiment, dans un autre centre. Et donc, entre les deux, il y a une espèce d'équivalence, c'est que dès qu'on sort une information de l'endroit sur cet emplaire, dans ce petit bureau, qui est caché dans un bâtiment, dans un centre, eh bien, elle est chiffrée. Ou alors, si c'était d'information physique, elle serait mise dans une enveloppe, laquelle est scellée dans une deuxième enveloppe, confiée à un porteur spécial, et ainsi de suite. Donc là, on chiffre, et puis on va jusqu'au serveur de l'autre côté. Donc il va falloir, si on veut pouvoir bâtir une solution nouvelle, mimer, reprendre avec des technologies plus récentes que celles que nous avions par le passé, de façon à trouver des informalités et aussi diminuer les coûts à la fois d'acquisition et les coûts d'exploitation. Donc la solution classique aujourd'hui, c'est celle que je vous ai montrée sur le transparent précédent. Un PC dans un coin, un chiffrement donc avec une protection physique. Donc le coût de la protection physique, pour vous donner une idée, pour un bureau standard, c'est de l'ordre de 5 000 euros. C'est quand même, donc, quand vous avez 300 ou 400 postes à déployer, c'est un coût non négligeable. Pour pouvoir faire transiter l'information vers le serveur, la solution classique aujourd'hui, c'est le chiffrement en coupure. C'est à peu près la seule chose où on trouve des produits qui soient agréés. Et donc, ça a un coût d'investissement qui est de l'ordre de 8 000 à 8 500 euros par poste. Donc, je vous rappelle aujourd'hui, un PC, on trouve ça pour 600 euros dans le commerce. Si vous pouvez rajouter 8 500 à côté pour sécuriser la maison, ça fait un peu mal. Bien évidemment, on dit chiffrement, donc ça veut dire qu'il faut gérer des clés, il faut gérer tout un tas de choses. Tout ça, ça ne se fait pas simplement, c'est à la fois des gens, c'est aussi du matériel. En gros, un coût de matériel pour un centre de gestion de clés, c'est de l'ordre de 85 000, 100 000 euros. C'est à la louche, tout ça. S'il y a des industriels dans la salle, ils pourront dire, mais non, on pourra faire moins cher. Mais enfin, bon, à la louche, on va dire que c'est à peu près ça. Le coût de fonctionnement, bien pour un petit réseau avec, on va dire, 300-400 postes, on a quelques expériences dans la maison. Eh bien, il faut en centrale au niveau national de l'ordre de 4 personnes, qui sont à peu près habitants, simplement pour répondre aux pions, au travail qui est à faire de gestion du quotidien, toutes ces choses, qui a été quand je l'ai donné, quand je l'ai changé, quand j'ai livré les nouvelles clés, et ainsi de suite. Et puis, par cent, ça vous faut aussi 4 personnes à temps partiel. Alors, si vous faites un peu de multiplication, vous apercevez que vous avez un effort de 20-25 personnes à l'heure, rien pour gérer les clés. Donc, c'est bien, c'est sûr, c'est certain. Hein. Mais c'est très cher tout ça. Autre inconvénient, eh bien, si vous cherchez dans le catalogue, vous apercevez qu'il y a très peu de produits finalement qui vous donnent les vrais niveaux de protection, qui ont les agréments nécessaires pour pouvoir traiter les informations au niveau de confidentialité, au niveau de protection que nous souhaitons. Et donc le deuxième inconvénient, c'est tout extrêmement cher. Donc si on veut pouvoir déployer des solutions modernes, il fallait trouver autre chose, parce que sinon, eh bien, on était rapidement coincé par les problèmes budgétaires, et à ce moment-là, on a rien faire plutôt qu'à faire quelque chose de trop cher, ce qui est dommage pour la sécurité. Donc la solution proposée, en fait, passe par la suppression du dispositif technologique en futur et par la mise en place d'un VPN. Et tant qu'on y est, eh bien, on va essayer de se baser sur d'autres sources et ça permettra comme ça, étant donné l'équidistance de ressources, de ne pas avoir beaucoup de ce côté-là, de disposer d'un poste de travail standard on diminue en fait par rapport à la planche précédente. Tout ce qui était coût d'investissement de chiffrement disparaît et aussi le coût d'exploitation en partie disparaît. Par contre, la protection physique, elle reste. Pourvu dans le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons, il n'y a pas moyen de l'évacuer, encore que ça pourrait se discuter un petit peu. Et donc le grand avantage de ce genre de choses, c'est qu'effectivement, donc, on va pouvoir diminuer le coût. Alors, quand même quelques inconvénients, la solution pourra-t-elle être agréée par les autorités réglementaires de façon effectivement à être déployée et à traiter les informations au niveau qui vont bien. Alors, les principaux problèmes qui se posent pour cet agrément, eh bien, c'est aujourd'hui le fait que les contraintes, les règles appliquées de façon standard, c'est un dispositif de chiffrement en couture, et que par exemple un VPN, eh bien, aujourd'hui personne n'a vraiment réfléchi à est-ce qu'on est capable d'agréer un VPN pour pouvoir traiter des informations à des niveaux confidentiels, enfin, à des niveaux de sensibilité élevés. Donc ça reste des choses à faire. Il faut savoir que dans ce genre de milieu, on considère qu'à partir du moment où il y a une taille théorique, elle arrivera forcément un jour. Le contexte d'emploi, certes, permet de limiter les conséquences, mais néanmoins ne permet pas de limiter. Donc rapidement, on a tout un tas de solutions tout le temps parce qu'on ne peut pas les employer, étant donné qu'il y aurait des failles théoriques éventuellement exploitables. Au-delà de tout ce qui est fait, bien évidemment, dans l'implémentation, là, on en introduit largement comme il faut. Donc, notre sujet est d'essayer d'établir une équivalence un petit peu entre ce qu'on disait en protection physique et en protection logique. Donc, je vous rappelle, donc, la protection physique, hein, c'est ces barrières, tout ça, c'est à quel objet finalement? C'est l'objet de détecter une intrusion éventuelle qui va permettre d'accéder à l'information et aussi de la retarder. Donc, ça veut dire que maintenant, si j'essaye de dupliquer ça, de mimer ça dans le tourment logique, eh bien, il va falloir que je mette un certain nombre de dispositifs pour pouvoir détecter cette intrusion, pour pouvoir retarder l'éventuel intrus dans son accès à l'information. Donc ben, ça veut dire qu'on va vouloir les authentifier fortement, parce qu'à ce moment-là, l'intrus devra pouvoir réunir un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de choses pour pouvoir accéder au système. Donc par exemple, bien, c'est une carte à puce. On a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas que les gens puissent accéder à de l'information sur le système lui-même, hein, que les utilisateurs ne soient pas tentés. On va savoir que par exemple, on ne va pas leur donner accès aux informations de configuration de l'application. On va limiter de façon à ce qu'il n'ait effectivement que leur application et que ça visible à l'instant T. Bon, histoire de se rassurer, il faudra qu'ils connaissent un petit élément supplémentaire. Si on leur quitte la carte à puce, il faudra connaître quelque chose qu'ils ont tous. Hein, c'est les classiques, ce que je sais, ce que je possède, éventuellement si on allait jusqu'à la biométrie, ce que je suis. Donc pour le moment, on ne va pas jusque-là. Et puis, ben, on va protéger le poste de travail. Le protéger, ça veut dire eh bien, que son logiciel va être masqué à l'utilisateur, sauf pendant l'exécution. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend le poste de travail, eh bien, on n'aura rien, pas d'informations à la fois sur les logiciels utilisés et sur les informations de configuration qui permettent l'accès au réseau. Et bien évidemment, pour éviter de se faire voler ces informations au démarrage du poste, on va contrôler le démarrage du poste de travail. Mais aussi pour éviter toute tentation à des individus qui seraient susceptibles de vouloir, à un instant T, me voler des informations sur ma configuration. Vous allez me dire, on est un petit peu parano, mais bon, c'est pas ça qu'on a fait. Authentification des accès au réseau via VPN. Bon, voilà, j'aurais une technique classique complète de VPN, simplement, on veut se protéger, donc on peut chiffrer un IPsec qui transite sur le réseau, de façon à éviter là tous les utilisateurs externes qui pourraient, en se posant sur une crise, voir les choses, voir ce qui se passe, éventuellement récupérer là aussi l'information. Authentification des accès ensuite aux applicatifs, pareil, bien seuls les utilisateurs déclarés peuvent utiliser les applicatifs, sauf que bon, on n'a pas de mot de passe, on ne sait pas assez sûr, et on sert une carte à puce avec le certificat X509 à l'intérieur. Et donc, détection d'intrusion, et bien du log possible à tous les niveaux, du log dans la machine elle-même, dans le poste client, mais du log aussi au niveau des serveurs. À partir du moment où on se connectait, je veux savoir qui se connecte, déjà rien que sur l'activation du VPN, et ensuite sur l'utilisation des applicatifs, de seul problème de tout ça, c'est qu'il faut oublier de traiter les deuils, c'est bien d'en faire, mais c'est beaucoup mieux. Il faut mieux en faire moins et les traiter qu'en faire trop et jamais les garder. Donc en résumé, un système d'exploitation maîtrisé, alors j'entendais dire tout à l'heure, j'utilise XP, j'ai une raisonnable confiance en Microsoft, bah oui, bah non, on n'a pas confiance, on préfère voir. Donc ça veut dire qu'on prend une boîte dans laquelle on peut disposer du source, même si, je vous l'avoue, on ne regardera pas et on n'a pas regardé la totalité des sources. Mais on sait qu'on peut le faire, et on sait éventuellement qu'on peut s'adresser à des gens compétents qui pourront faire pour nous et des gens, évidemment, auxquels on aura confiance. On ne veut pas non plus qu'il y ait de stockage permanent d'informations, c'est-à-dire que si nos informations sont sur le PC, on se fait voler, que voilà, la plupart des gens, pas de stockage, pas de dispositif de stockage, pas de disque dur, pas de disquette, pas de clé USB, pas de rien, rien qui permet de créer l'information du poste de travail. Honnêtement, j'aurais un gros vieux terminal X, je le sentirais pas très bien, sauf que ça se vend vraiment à l'époque et qu'il manque d'authentification. Mais sinon, ça serait que ça serait pas mal. Une vieille console, une bonne vieille VTC en hélas, ce que ça veut dire, c'est du calcul aujourd'hui. Une authentification forte, donc une authentification forte, ben c'est obligatoirement carte à puce. Nous avons la chance de cela disposer d'une infrastructure de santé qui fonctionne depuis peu, mais qui fonctionne, donc ça veut dire authentification des gens par certificat, donc on est sûr de nos utilisateurs. Ils ont reçu leur certificat lors de la campagne de social, et donc on est à peu près raisonnablement sûr de qui ils sont quand ils présentent leur carte à puce. Bien évidemment, même si on fait confiance à tout le monde, on par rapport, on ne veut pas non plus qu'on puisse nous installer ou modifier le logiciel qu'on met à disposition de l'utilisateur, donc il est gravé sur un CD-ROM. Et comme on disait qu'on ne veut pas que l'utilisateur, sur ce cliquet de CD-ROM, puisse en état d'attention, il est chiffré sur le CD-ROM. Alors tout ça, ça va nous donner une petite config de démarrage un petit peu difficile, mais bon, on s'en sort un petit peu. Donc des rôles, comme d'habitude, la sécurité ça veut dire des rôles. Donc un rôle d'administrateur qui permet de démarrer une phase de travail, donc disposer une carte à puce spécifique. Et puis ça va permettre en fait de démarrer la machine en présentation de carte et de bien pour déchiffrer toutes les informations qui sont contenues sur le CD-ROM. Ensuite, l'application est démarrée, et l'administrateur il n'a pas forcément accès aux applications. Donc il s'en va, il enlève sa carte à puce. Et l'utilisateur à ce moment-là s'authentifie, d'une part sur le réseau pour pouvoir avoir un accès à VPN à l'application dont il a besoin, donc le masque VPN pour protéger pendant le transit, ainsi de suite. Et d'autre part, donc en plus le VPN nous permet de télécharger le contenu de sécurité sur le client, on ne sait jamais ce qu'on pourrait faire, il y a des bricoleurs quand même. Et puis ensuite, bien authentification auprès de l'applicatif lui-même pour faire le travail qu'il a besoin. Il faut savoir que les utilisateurs dans ce cas-là ne sont pas forcément non plus des gens très féroux, alors ils se rapprochent presque de la grand-mère, en ce sens que ben, on a par exemple des opérateurs de machines outils qui ont simplement besoin d'entrer des données sur les résultats des opérations qu'ils ont faites. Et donc ils ont besoin de rentrer ça dans leur applicatif à l'instant T. Et bon, ben, voilà, il faut qu'ils aient des petits écrans bien fiers pour rentrer leurs informations et que ça, de même, ça les rendra totalement transparent. Là aussi, un souhait de masquer à l'utilisateur la complexité de la sécurité qui est derrière, mais par contre, du point de vue de l'organisme CEA, un souhait de sécurité maximum est renforcé, même si l'utilisateur, finalement, on lui remet un objet, un PIN code, en lui demandant simplement de ne pas donner son PIN code, donc on lui explique que c'est comme sa carte bleue qui risque de se faire piquer des sous, et ça marche à peu près bien. Il y en a encore quand même beaucoup qui notent le numéro de PIN code. De moins en moins, on améliore quand même pas mal les choses de ce point de vue-là. Donc voilà, très rapidement, il nous reste, si j'ai bien compris le temps, 5-6 minutes pour quelques questions. De toute façon, sinon vous avez une email, je vous retrouve après.
Vous parlez d'une entité qui est de la recherche à nous, qui en ce moment des besoins d'accès à Internet pour recevoir des
données. Alors, deux choses. En général, sur les postes de travail classiques de ces chercheurs, ils sont compétents en tout, et notamment en informatique. Et ils veulent pouvoir installer et avoir la maîtrise totale de leur poste de travail. Donc en gros, la seule solution, c'est le client VPN, et au moment où ils le lancent, ils coupent leur poste de travail, je vous reste sur le réseau. Donc ils sont à l'instant T, isolés, pour certainement pour l'application. Par contre, on ne les autorise pas à appliquer des données sensibles sur ce poste de travail, donc ils ne peuvent pas se mettre l'application sensible. Ceci ne peut être fait qu'à partir d'un poste de travail bien défini qui, lui, est dans un local sécurisé. Donc ils ont une obligation de se bouger physiquement s'ils veulent travailler sur des vraies choses sensibles. Sinon, pour, par exemple, s'ils veulent passer une commande pour une obligation ou simplement rentrer leur congé, là, c'est un VPN simple et ils sont connectés directement à l'application et par la politique de sécurité qui est téléchargée en VPN. On interdit le split du menu, à penser, et c'est une position que je défends et que j'essaye de faire avancer, d'un dispositif crypto logiciel à partir du moment où il est protégé en stockage et il est présent, utilisable en RAM dans la machine et qu'on a des dispositifs en interaction sur la machine elle-même et qu'on a eu une carte à puce qui a permis de déchiffrer simplement ça au moment du chargement, globalement, on a à peu près la même sécurité qu'un dispositif crypto hardware. Il y a des petits points de détail, on pourra en discuter du coup si les points dans la fin de
journée. Comment choisissez-vous typiquement les éléments de votre machine et quelles sont vos interventions physiques pour couper sur la machine? Comment vous choisissez vos éléments matériels?
Alors, les éléments matériels, a priori, c'est du PC standard malgré tout, donc ça veut dire que les dispositifs sont physiquement présents. Donc, par exemple, l'USB est présent, mais dans l'OS que j'ai chargé, je n'ai pas mis de ressources derrière.
Vous n'intervenez pas physiquement?
Non, j'interviens pas physiquement sur la machine. Je souhaite limiter pour des problèmes de coût toute intervention physique sur la machine. La seule chose que je m'autorise, c'est un dispositif anti-intrusion, et parce que si on enlève le couvert, ça passe tout en bas.
Est-ce que l'obtention des droits à bout de l'utilisateur sur la machine est un problème pour vous? Si c'est Linux et que l'utilisateur obtient les droits à bout sur la machine, est-ce qu'il y a des informations auxquelles il peut accéder? Et si, comment, enfin, quels sont les délais pour corriger une faille locale au kernel, par exemple, vu que c'est sur CD et que ça a l'air une organisation qui somme toute assez lourde? Est-ce que vous avez évalué la période de temps de généralité entre la publication et la correction sur les CD distribués à l'utilisateur?
Mais ce qui est accessible à l'utilisateur, a priori ce qui est accessible à l'utilisateur, c'est un client Citrix ou un navigateur. Et il ne voit que ça. Il ne voit pas le reste. Donc j'ai pas de contour sur les machines, par exemple. Enfin, il n'y a pas d'accès shell sur la machine. Donc si vous voulez, je me prémunis d'un certain nombre de choses et je me donne du délai grâce à ça pour pouvoir éventuellement, s'il y avait une faille important de détecter sur un des composants du système pour pouvoir réémettre un jeu de CD qui corrigerait les failles. Mais il n'est a priori pas prévu de réémettre un jeu de CD. Bon, je vous disais, un réseau moyen c'est 300-400 postes. Hein. Donc il n'est pas prévu de réémettre les 300-400 CD à chaque sortie de faille. Le bon sens, on s'aperçoit que la gravité est telle qu'effectivement, bon, c'est à partir du navigateur, on peut me récupérer effectivement des informations de config réseau ou des choses de ce genre. Là, oui, on essaiera de mettre effectivement un dispositif de limitation de conséquences et donc de remettre rapidement un jeu de CD. Mais a priori, non. Dans ce contexte-là, on est moins sensible à l'apparition de failles soudaines. Hein, mais bon, parce qu'on a effectivement mis un contexte organisationnel autour, c'est l'avantage du serveur, on peut se le permettre. Tout le monde ne peut pas se le permettre et c'est une limitation. La sécurité vient en partie, enfin, vient un peu des mesures techniques, comme d'habitude, et énormément du contexte organisationnel qui est autour. Ça, je dirais, enfin, je pense que tout le monde en est conscient, 10% technique, 90% d'organisation et tout. Enfin, c'est pas nouveau.
Bon, c'était une question à peu près similaire, la première partie, donc elle a pu être répondue. Mais la deuxième partie, c'est s'il y avait un moyen quand même d'accéder à la commande, comment se prémunir, par exemple, de quelqu'un qui se connaît bien, qui peut quand même monter le système de fichiers USB, etc. Mais bon, c'était partiellement répondu.
A priori, voilà. Si vous voulez, je n'ai pas mis les drivers USB, donc je ne vois pas comment il va faire. On fait quand même un noyau dans lequel il n'y a rien que ce dont on a besoin. Donc, il n'a pas de dispositif, il n'a rien pour rajouter des choses. Alors, il n'y a pas de lecteur de disquette, il n'y a pas de lecteur de disque dur, il n'y a que le CD qu'on lui a donné. Donc, vous allez me dire, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure, il pourrait effectivement booter un autre CD. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien dans la machine. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Mais il ne peut pas avoir les gens. Enfin, nous essayons de nous organiser de telle sorte que quand il est connecté à ces applications, il soit passé par un certain nombre d'étapes qui nous garantissent qu'il ne peut avoir accès qu'à ça et qu'il est dans le contexte d'emploi qu'on a défini.
On
ne
peut pas se fabriquer un CD pour acheter
un CD driver? Ben oui, mais il va falloir qu'il ait plein d'informations, justement, on lui a caché depuis le début.
Vous avez dit que vous avez une IGC opérationnelle.
Oui.
À ce IGC produit libre
oui.
Oui. Et vous avez délivré combien de certificats? vous avez 18 000 appels.
Aujourd'hui, nous, l'IGC opérationnel a démarré il y a un mois et demi, donc on a redélivré, je ne sais pas, parce que j'étais en vacances, je n'ai pas regardé les stats de partir. Le pilote a été délivré quelques 200-300 certificats, quelque chose comme ça.
Votre idée de manœuvre est que chaque agent du CEA ait un certificat.
Complètement, et intégré dans son badge d'agent CEA. C'est pour ça que ça prendra un certain temps à déployer. Donné qu'il faut rouler l'ensemble des badges CEA, des badges crypto, et ça prend à la fois de l'argent et du temps.
Et vous en distribuerez à vos correspondants extérieurs?
Alors, ça, c'est une grande question, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que nous serions à même de gérer, alors déjà, pour gérer les dispositifs badges pour les données de correspondants, et ça voudrait dire aussi qu'on est, leur impose d'utiliser des drivers, des GNU X ou Y, et des dispositifs physiques sur leur PC. Je me vois mal imposer ça, notamment par exemple à tous nos correspondants universitaires. Alors, l'idée là que nous avons, c'est simplement de leur donner un certificat logiciel en leur recommandant de mettre dans un dispositif matériel, une n'importe quoi, ce qu'ils ont localement, mais de donner un certificat avec des droits extrêmement réduits, qui nous permettent par exemple l'identification quand on est sur de toute façon ces gens extérieurs n'ont pas accès aux applications sensibles aussi. Je réponds, mais c'est en dehors du cadre de l'exposé, je dirais.
Vous avez utilisé que le monde de l'Ouest n'avait pas de système d'éducation non vitable.
Vous n'avez pas besoin de s'en débrouiller.
Au niveau du système d'éducation, vous avez repoussé une dose en partie à cause du code source.
Oui.
Question de témoin, vous pensez que le code source en général?
Oui.
Et la réponse a été.
C'est cher. C'est en dehors de mes moyens et la seule solution que je pourrais avoir là, c'est effectivement d'utiliser si jamais, alors là, je ne sais pas ce que fait la DCCC sur le sujet, j'ai entendu dire que l'État français avait effectivement au moins des listes pour pouvoir regarder, mais moi je ne suis pas sûr. Surtout moi je n'ai pas encore demandé la confirmation de ce point-là. Un certain nombre d'États l'ont fait, donc je pourrais peut-être effectivement obtenir de mon autorité de tutelle une assurance raisonnable. Sorti ça, il y a quand même un certain nombre de points. D'autre point, je suis incapable de configurer en luminosité ou configurer n'importe quel Windows d'ailleurs, aussi finement que je sais le faire avec un noyau Linux. Je suis probablement pas doué, mais.
Sur le principe, il faut se compiler par user.
Excusez-moi.
Sur le principe, il faut se par user et l'accès aux ressources.
Ah, peut-être, j'en sais rien. Je me suis écouté. Honnêtement, je n'ai pas posé la question parce que je l'avais posé dans une vie passée avant d'être pour CELVA. Le tarif était tel que de toute façon, je suis en dehors du contexte de mon étude. Là, je cherche à diminuer très loin.
Et
vous avez France Large.
Tout ce temps là-bas, monsieur.
Et pour des chiffres excédés pendant le démarrage, c'est un certificat, qu'est-ce que vous voulez?
Non, justement, c'est la particularité, c'est pour ça qu'on a une carte administrateur, il y a une clé spécifique pour les administrateurs. Donc ce n'est pas le certificat.
C'est pas la clé, c'est pas l'utilisateur de la machine qui va la démarrer.
Non.
C'est tout qui est en volatile.
Oui.
Il y a un tour de courant pour réappeler l'administrateur.
Oui. Alors, réappeler l'administrateur, alors bon, là aussi, question complexe d'emploi. La plupart du temps, la première application qui a été vue était l'application dans des ateliers. Donc effectivement, les gens ne sont de toute façon pas compétents. En général, ils mettent la machine en route un jour, elle reste en route pendant des années et des années jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. Et le courant au CEA est un courant régulé, protégé. La tamis pour coupure n'existe pas. La coupure de courant est programmée. Seul l'incident existe. Quand c'est un incident, on peut appeler l'administrateur.
Et là, on est à un petit peu de retard. Si vous voulez que vous avez des questions, éventuellement,